Formulabula.
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 Formulabula. Je veux être calife à la place du calife.
1 000 milliards de 1 000 sabords.
Je dirais même plus.
Pressez ce bouton et criez dring.
Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien.
Ils sont fous ces romans.
Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire.
Formulabula, bande dessinée et plus si affinité.
Cette rencontre peut commencer. Est-ce que vous êtes familier avec le travail de ces trois humains ici? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout leur travail? Ah, deux. Ok, d'accord. J'ai préparé une présentation. Voilà, je vais vous dire qui sont ces gens. Commençons par là-bas. Donc, elle a étudié l'illustration à Leipzig, mais c'est vers la BD qu'elle se tourne. À un moment de sa vie où elle a la tête au fond du seau. C'est ainsi qu'elle auto-édite Doggy Style en 2018. 3 ans plus tard, Melek plus moi voit le jour aux éditions modernes. Pour employer un terme trivial, hein, c'est une énorme dinguerie où le noir et blanc alterne avec des explosions en couleurs qui sont extrêmement sensuelles et qui sont là pour illustrer des passages très très émotifs. Et donc l'autrice pousse le narcissisme à un niveau totalement stratosphérique puisqu'elle y met en scène sous les traits de Nikki, une scientifique qui se fabrique un corps de voyage pour y transporter son âme et venir rouler des pelles à son alter ego qui se laisse séduire par l'autre avec une facilité déconcertante puisque l'autre, c'est elle. Voilà, et elle, c'est Lina Ehrentraut. Vous pouvez l'applaudir si vous souhaitez. Donc, Melek plus moi, c'est son premier travail d'envergure qui a donc été publié d'abord. Enfin, les éditions modernes, c'est une maison d'édition suisse. Ça a été traduit en français chez Même Pas Mal. Je vous recommande très très chaudement la lecture, c'est absolument formidable. Voilà, passons à la suite du dithyrambe sur ma gauche, dans le fauteuil ministériel à accoudoir ici. Ses débuts en BD, donc alors qu'elle est encore enfant, sont animés, je cite, par une belle volonté de nuire. Puisqu'elle se sert de ce médium graphique pour humilier son prochain à travers des œuvres telles que Chantal de la cantine marche dans une crotte de chien ou Enzo se fait mordre la bite par un serpent. Si je détiens ces informations, c'est évidemment parce que je suis une followeuse assidue de son compte Instagram où elle dessine sa vie dans toutes ses turpitudes depuis quasiment 3 ans. Elle est en voie en ce moment même de devenir une meilleure personne puisqu'elle a arrêté de boire depuis quelques mois. Bravo! Et d'ailleurs, elle en parle avec une justesse immense là sur une série de 6 posts, de 6 strips, où elle parle du lien entre murs, GN de soi, avec un humour et puis une justesse qui m'ont beaucoup touchée. Et pas uniquement parce que j'ai un problème d'alcool. Je vous en recommande très chaudement la lecture avant d'aller boire l'apéro tout à l'heure. Voilà. Mesdames et messieurs, Salomé Laoche. Et pour finir, au milieu, elle est née en 77 en Équateur, alors que sa mère n'était pas supposée être enceinte, donc elle était un miracle. Le virus tropical qui était censé être à l'origine de cette grossesse, selon donc le gynécologue qui a observé très justement l'état de sa mère, a donné donc le titre à sa première BD autobiographique qui a été publiée en 2011, donc virus tropical. Jusque-là, elle était peintre et c'est au cours d'une résidence à Paris qu'elle découvre, grâce à sa coloc, le champ des possibles de la BD. Donc par la lecture notamment de Chris Ware, mais aussi de notre mère à toutes, que son nom soit sanctifié, Julie Doucet. C'est à Paris toujours qu'elle réalise qu'une galerie est en fait plus intéressée par ses carnets que par sa peinture. Elle ne se laisse pas démonter pour autant, elle persévère. Et l'autre jour, quand je lui disais assez maladroitement au téléphone qu'elle racontait sa vie, elle m'a corrigée avec une remarque que j'ai trouvée hyper belle et que je trouve vraiment en plein dans le mille pour une rencontre comme la nôtre aujourd'hui. Elle m'a dit « Je ne raconte pas ma vie, je me sers de ma vie pour raconter des histoires ». Et on reviendra sur ce sujet. Et donc cette raconteuse d'histoire, c'est Power Paola. Voilà, bonne soirée. Peut-être juste pour contextualiser ça, cette personne ici, c'est donc l'avatar, l'alter ego du personnage principal de Melek plus moi, de Lina Ehrentraut, qui est donc ce corps de voyage, comme elle le dit, qu'elle se confectionne pour y implanter son âme et ensuite se rendre dans le bistrot dans lequel son alter ego à elle est serveuse et pour aller la draguer dans ce corps qu'elle a façonné à une image idéale selon elle. Mais peut-être pour commencer, avant d'entrer dans le détail des œuvres, question que j'ai envie de poser à chacune d'entre vous, en fait, sachant que le thème c'est quand même les histoires du moi, qu'on va parler de bandes dessinées autobiographiques et autofictives, est-ce que vous vous aimez bien, Salomé Laoche?
Ben, moi, c'est comme tout le monde, ça dépend des jours. Donc, des fois, pas du tout, des fois, ça va à peu près. Je pense que le fait de bien s'aimer, ça va pas, il n'y a pas forcément de corrélation avec le fait de raconter des histoires sur soi, parce qu'il y a plein de gens qui se détestent et qui sont hyper dépressifs, qui font de l'autobiographie en BD. On pense notamment aux auteurs américains. Et du coup, peut-être même que plus on se déteste, plus on a envie de raconter des histoires sur soi. Je sais pas pourquoi, peut-être pour montrer qu'on n'est pas si pire, pour montrer qu'on est si pire, pour se réconcilier avec soi-même, j'en sais rien. Et donc voilà. Donc moi, mi figue, mi raisin, quoi. Donc voilà.
C'est une question difficile,
un peu. Ouais, je suis désolée, mais on commence dans le dur et puis on rétrogradera ensuite un petit peu.
Ouais, je crois que oui. Et maintenant, je m'aime. Et c'était un travail que j'ai fait beaucoup des années pour dire ça, pour dire oui, je m'aime. Et c'était pas facile, mais c'est la unique façon de construire des choses et de faire des choses, de croire. Pas que c'est pas seulement l'amour, c'est de croire en moi. Ouais.
Merci. Et toi?
Ich glaube, es gibt so
Il y a des journées où je me trouve très bien et en général, je suis convaincu de ce qui me concerne, ce qui concerne surtout le travail.
Aber wie du eigentlich auch schon gesagt hast, gibt's auch Tage, wo es so richtig scheiße ist und wo.
Mais comme tu l'as dit toi-même, il y a des jours où c'est de la merde. Alors je m'assois et je me dis, je sais faire certaines choses, j'utilise les dessins, je m'exprime et ça va mieux.
Et pour rester, disons, dans le champ biographique, toutes les trois, il y a un moment où vous vous êtes lancées dans la BD, et très rapidement, en fait, c'était de la BD autobiographique. Alors, vous n'avez pas la même histoire, évidemment, mais il y a eu le choix de s'exprimer de cette façon-là. Pour toi, par exemple, qui venais de la peinture, Lina, plutôt de l'illustration à Leipzig. Et un jour, vous vous emparez de la BD pour raconter quelque chose, un épisode biographique ou pour travailler sur quelque chose de votre histoire. Est-ce que vous pouvez me raconter toutes les trois comment vous vous êtes mises à raconter votre existence en BD?
Ouais, comme tu as dit, j'ai commencé avec la peinture et le dessin. Mais le dessin, c'était un peu comme des journaux intimes. C'est un peu dans l'école des beaux-arts, le dessin, c'était pas considéré comme des œuvres artistiques. C'était comme des esquisses. Mais quand je suis arrivée ici à Paris pour faire une résidence artistique à la Cité internationale des arts, j'ai une voisine, comme tu as raconté, qui m'a montré beaucoup de bandes dessinées et tout mon travail, c'était très, très personnel et quotidien. Et je trouvais que les bandes dessinées, c'était le format parfait pour raconter les choses que j'ai envie de raconter. Et aussi, j'ai trouvé que c'est un monde que c'était pas prétentieux. Je peux pas être sérieuse avec moi. Non, c'est pas comme ça.
Et te prendre au sérieux?
Ouais, c'est ça. Et ça m'a donné beaucoup de liberté de raconter des histoires de ma vie. C'est comme ça que j'ai, en fait, c'était beaucoup des années que j'ai lu beaucoup de bandes dessinées et après j'ai décidé de faire des bandes dessinées. C'était pas facile, c'était un truc qu'il faut essayer beaucoup et d'être toute seule et c'était pas comme la peinture que c'est, tu ne penses pas sur le spectateur. Et avec la bande dessinée, tu dois penser dans quelqu'un qui va lire et j'ai envie de raconter une histoire. Et c'est pas la même chose. Et c'était un peu difficile, mais tous les artistes que j'aimais beaucoup sont mes référents, sont des gens qui travaillent avec son propre vie. Et c'est pas seulement de la bande dessinée et de l'art en général. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la bande dessinée comme un métier pour raconter les choses que j'ai envie de raconter.
Et juste parce que, pour préciser, comme tu me le disais l'autre jour, mais la bande dessinée, finalement, se trouvait dans la continuité déjà de ton travail de peinture, où tu intégrais déjà à la peinture des mots, il y avait déjà un côté verbal dans ton art pictural, en fait.
Ouais, ma peinture, c'était très graphique, et j'ai utilisé beaucoup de mots, un peu d'illustrations aussi. Mais quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées, j'ai abandonné la peinture. J'ai pas trouvé la même façon de penser, d'être avec ça. Et c'était en 2018 que j'ai eu un accident et je me cassais le bras en 5 parts. C'était horrible, mais c'était génial aussi parce que j'ai appris à faire la peinture avec les mains gauches et c'était pas domestiqué. Je crois que maintenant j'ai pu mélanger les deux mondes. Je suis contente maintenant parce que j'ai trouvé et de m'exprimer avec la peinture et la bande dessinée aussi.
Moi, en fait, je lisais beaucoup de BD quand j'étais petite. Et assez tôt, je me suis... Enfin, je l'avais pas formulé comme ça, mais instinctivement, je crois que mes bandes dessinées préférées, c'était les bandes dessinées autobiographiques. Mais sauf que c'était des grandes histoires, quoi, avec vraiment un sujet. Et c'était un livre complet, donc par exemple, Persepolis, voilà. Mais à l'adolescence, j'ai commencé à lire des blogs BD où du coup c'est des petites, c'était des strips sur le quotidien. Il n'y avait pas besoin de se prendre la tête outre mesure. Et j'ai commencé à dessiner du coup ma vie aussi dans des carnets comme si je tenais un blog BD, sauf qu'en fait je le montrais à personne. Et heureusement, parce que c'était franchement, j'ai revu, c'est l'enfer.
Et en même temps, t'étais collégienne, enfin voilà,
oui, oui,
on
mais
te pardonne.
Quand même, tu vois, même les trucs que tu fais au collège, même si tu te dis bon, t'avais 11-12 ans, ça va, en fait non, ça brise quand même quelque chose d'aller revoir. Et du coup, j'ai toujours eu un peu cette pratique et je savais que je voulais faire de la BD, mais pas forcément que de la BD autobio. C'était pas une fin en soi, mais c'était une sorte d'à côté. Et en fait, ce qui est cool avec la pratique de raconter son quotidien, etc., c'est que il n'y a pas besoin de trop se creuser la tête à trouver des scénarios. Il y a toujours quelque chose à raconter. Et on peut difficilement se tromper puisqu'on parle de quelque chose qu'on a vécu, qu'on vit de l'intérieur. Et du coup, on va forcément avoir raconté quelque chose de vrai. Et du coup, j'ai commencé à publier ça sur Instagram bien plus tard. Et je trouve qu'il y a un truc qui est un peu honteux avec la bande dessinée autobiographique d'en faire. Enfin, déjà, la BD, c'est un peu un sous-art. Bon, moins maintenant, mais voilà. Mais alors, la bande dessinée autobio, c'est vraiment le truc de branleur, quoi. Et en fait, le truc qui sauve un peu quand on en fait, c'est de se rendre compte que ben, si on a vécu quelque chose, il y a forcément plein de personnes qui ont vécu la même chose et qui vont se reconnaître. Et que du coup, ça fait aussi du bien aux autres, quoi. Mais du coup, oui, pour répondre à la question, ben, moi, j'ai commencé au collège en lisant des blogs BD. Voilà.
Je voudrais donner la parole à Alina, mais on reviendra sur, je trouve c'est intéressant cette catégorisation de sous-genre, de genre de pouilleux absolu, parce que justement on a l'exemple avec Paola qui est, enfin, pour qui la BD est l'aboutissement en fait, je veux dire elle a arrêté la peinture et a trouvé une forme d'expression absolue, enfin qui lui correspond dans la BD, donc en fait il y a un côté, la peinture c'est pas suffisant, tu vois. Et je trouve intéressant cette hiérarchie, la noblesse ou l'absence de noblesse de... Encore une fois, cette expression « raconter sa vie ». Enfin, je veux dire, c'est pas... je raconte ma vie, c'est un peu... On reviendra là-dessus. Lina, tes débuts en tant que auto-fictionniste.
Avant de faire ma première BD, j'ai fait plusieurs dessins dans des séries. Et à un moment donné de ma vie, j'étais achevé, je me suis dit, je vais faire quelque chose, j'ai construit une histoire plus longue, plus structurée. Je me suis rendu compte qu'écrire à la fois des textes et avoir des images, ça m'a permis d'enrichir mon discours et mon échange, parce qu'avant ça manquait, parce que j'avais que des images. Parce que trop souvent, je me suis rendu compte que les images que je faisais auparavant étaient super dépressives. Et le langage nous permet, en utilisant les mots qu'on souhaite y placer, de s'exprimer et donner une autre touche qui rend la chose beaucoup plus légère et beaucoup plus viable.
Et
très souvent, quand j'ai fait la mise en place de personnages dans l'espace, c'est une mise en place qui correspond à mon propre vécu et ils disent des choses que j'ai déjà entendues.
Aber dann halt Sachen passieren.
Mais à la suite, il y a des moments, des choses qui se passent qui ne sont jamais passées ou qui ne passeront jamais. C'est une dimension de science-fiction ou de fantasy qui me permet de voyager.
Und, das war für mich voll wie so
ein Ça m'a permis de me libérer. Parce que si je passe en revue l'histoire, je me dis, mais c'est comme un rêve de jour.
Un Tagtraum.
Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer si la personne commence à se prendre en sérieux ou pas, à agir comme ça?
Und dann enfin, à fricoter avec elle-même, c'est rummachen, c'est.
Ja, und dann habe ich.
Et ensuite, je me suis dit, mais finalement, j'écris une histoire et je peux écrire ce que je veux. Et du coup, c'est rigolo et je suis chez moi.
Zu Hause, in comic, ja.
Tu mentionnes la légèreté qu'a apporté la langue aux images que tu faisais auparavant. Salomé, toi, tu as une tendance aussi à tourner des trucs parfois totalement tragiques et lourds à la pure gaudriole, quoi. Que ça soit par la science-fiction ou la blague ou la distance, enfin, il y a quand même une volonté de s'éloigner un petit peu, enfin, quand même transformer un peu la réalité. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de raconter des histoires vraies, enfin, tu parlais de vérité. Justement, c'est là où vous ne faites pas que raconter votre vie. C'est qu'on embellit, on a le souci de la blague et de la distanciation un petit peu, quoi. Oui. Non, je sais pas, c'est pas une question, en fait, vraiment.
Bah, pour le truc des blagues, je pense que c'est important de mettre une distance entre ce qu'on vit et ce qu'on va raconter. Parce que sinon, on tourne très vite un truc dans le pathos, ou c'est chiant, ou ça fait trop mal. Il y en a qui le font d'une manière avec de la poésie, avec en changeant un peu l'histoire et tout. Moi, c'est les blagues, parce que j'aime bien faire ça, et que ça légitime un peu ce que je fais, parce que c'est pas hyper bien dessiné, c'est pas hyper poétique, mais du coup, si les gens rigolent, ben ça va. Et ça permet de se protéger aussi à fond. Et après, ça, c'est pas que quelque chose que les gens font en bande dessinée. J'ai l'impression que quand on raconte des trucs tragiques qui nous sont arrivés à nos potes, bah, on va quand même mettre des petites blagues et tout, parce que c'est une façon de processer le truc. Enfin, là, c'est quand même différent de savoir qu'on va être lu que de juste écrire son journal intime. Donc, oui, il faut quand même que ça ait un début, une fin, une forme de narration, que ce soit agréable pour le lecteur. Voilà, mais en fait, il n'y avait pas trop de questions, donc je ne sais pas trop où je vais là.
Non, mais c'est une discussion, okay. C'est ça. Il y a une façon pour toi de te servir de la matière de ta vie qui a évolué au fil de tes œuvres, c'est-à-dire que tu as commencé par une œuvre qui était purement biographique, où tu racontes Virus Tropical, c'est vraiment ton enfance, ton adolescence jusqu'à quoi, t'as 16-17 ans, un truc comme ça à la
18,
fin, ouais. 18 jusqu'à tes 18 ans. Et là, il y a vraiment purement une envie de raconter les interactions entre toi et tes sœurs, avec ton père. Enfin, il y a quelque chose de quasiment, de vraiment documentaire finalement. Et où, au fil des œuvres, tu t'éloignes de ce souci purement documentaire. Pour là, il y a notamment, enfin, une de tes bandes dessinées les plus récentes qui s'appelle donc en français Tous les vélos de ma vie. Et où elle a pioché donc les vélos qu'elle possédait à différents moments de sa vie, à différents endroits géographiques aussi. Et puis elle part de ce vélo, de comment elle l'a acquis, comment elle se l'est fait voler, comment elle l'a perdu, pour partir de là et raconter des épisodes qui sont légèrement modifiés aussi. Enfin, tu vois là où tu prends des libertés avec la matière. Est-ce que tu peux décrire un petit peu comment a évolué ton rapport à la matière de ta vie avec le temps?
Oui, quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées, et j'ai trouvé que j'ai envie de raconter tout, les choses qui m'ont passé, et toute l'histoire de ma famille, et très inspirée pour un écrivain colombien qui s'appelle Andrés Caicedo, et qui, lui, il a parlé beaucoup sur Cali, un Cali que j'ai pas connu. C'était un Cali très bohémien, très artistique. Et le Cali où j'ai grandi, c'était un Cali et de le narcotrafic. C'est très violent, il n'y a pas les mêmes choses que j'ai lues. Et c'était pour moi très... C'est de mon inspiration parce que j'ai envie de raconter mon Cali, mon Bogota, au Paris, parce que je sais qu'après sera une autre chose complètement différente. Et Virus Tropical, c'était une histoire que j'ai envie de raconter sur une famille colombienne qui est migrante, qui habite dans l'Équateur, qui est très latino-américaine, très religieuse, mais aussi très paranormale. Et après, cet livre, j'ai trouvé que je n'ai pas envie de raconter tout. Et j'ai envie de raconter peut-être des petites histoires, plus lentement, pas beaucoup d'informations. Et chaque livre, je suis une personne complètement différente et j'ai envie d'être
fidèle
à moi-même. Et peut-être avec tout le vélo de ma vie, c'était un expériment d'aller au passé, au futur, au présent et faire un peu... utiliser un peu le surréalisme et c'était pas très 100% réel. J'ai envie de jouer. Ouais. Et après, je ne sais pas, mais j'ai envie que chaque projet, c'était une chose complètement différente, avec des matériaux différents, et avec des dessins différents, la manière de raconter les histoires. J'ai envie de ne pas me répéter.
Et Lina, il y a quelque chose de très fort dans Melek plus moi, justement, parce que c'est totalement le mythe de Narcisse adapté à toi et poussé à l'extrême total, puisque tu te contentes pas de tomber amoureuse de ton reflet. Enfin, non seulement tu te t'entiches de ton reflet, mais tu couches avec. Enfin, il y a quelque chose de très charnel. Tu plonges en toi-même, quoi. Et il y a ce qui est passionnant dans cette rencontre avec, bon alors je dis toi, mais disons ton alter ego, c'est que à la fois tu sais comment te séduire parce que tu te connais, et en même temps tu mets le doigt sur tes défauts, tu pointes l'ennui total de tel trait de caractère, la banalité de tel goût musical, et t'es assez dur et t'es assez cruel avec toi-même aussi. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez paradoxal dans ta rencontre avec toi-même. Une fois que tu as fait quelque chose d'aussi total, d'aussi frontal, où est-ce que tu vas avec toi-même, avec ton moi fictif, là, maintenant, par la suite? Et qu'est-ce que tu as appris, surtout? Tu as une demi-heure.
Une bonne amie à moi, elle a dit qu'il s'agit de l'amour de soi et de la haine de soi. Et c'est vrai.
Und ich glaube, das ist auch was.
Et c'est aussi la manière avec laquelle je me traite moi-même qui est parfois un peu toxique, oui.
Und ich glaube aber auch, also in dem Buch.
Et je crois que j'ai fait une ventilation des différentes facettes de moi-même, des choses que je les suis ou que je reconnais dans des caractères.
Ein Charakter ist halt,
so et donc il y a un caractère qui se concentre beaucoup, qui travaille très dur, beaucoup.
Und einer
et un autre caractère qui est très léger, qui s'amuse avec les gens, qui passe du temps.
Und ich bin halt beide von
et moi je suis les deux, comme tout le monde, que j'estime qu'il y a personne qui est exclusivement sérieux ou exclusivement marrant.
Ja, und das war, also ich glaube, das ist so ein innerer Prozess.
Et c'est un processus, je m'en occupe et je me pose des questions. Il s'agit beaucoup de travailler là-dessus.
Und wo ich mir viel Gedanken darüber
et je me suis posé la question de l'équilibre entre les temps libres, les temps du travail, les temps rémunérés, les temps de création, et quel est le lien entre tous ces temps.
Und was das für meine Freizeit bedeutet.
Et est-ce que, en faisant ce jeu, de te diviser en deux personnages qui incarnent des côtés un peu extrêmes de toi, est-ce que par ce jeu, tu as découvert des choses sur toi?
Ja, dass ich mehr Spaß habe.
Oui, ça m'amuse.
Also, ich war dann schon auch überrascht, dass dieser Charakter...
J'étais moi-même surpris de la perspective avec laquelle la narration s'est faite de cet caractère.
Dass die so schlecht wegkommt. Also.
Et que ça ne passe pas.
Aïe, aïe,
pour revenir à la noblesse ou à la non-noblesse de ce genre, tout à l'heure, alors, Salomé, tu comparais en fait ton travail avec la pratique d'un journal intime qui serait peut-être plus... toi, tu mets dans ton œuvre un peu plus de distance et le journal intime serait un truc un peu plus sérieux, un peu difficile à lire et qui n'est pas vertu à être partagé. Ce qui me fait penser au journal d'Anaïs Nin, où à la base, en fait, elle est devenue plus célèbre pour son journal que pour son œuvre littéraire. Et je pense qu'en écrivant son journal, en fait, elle s'écoutait écrire aussi, elle écrivait pour elle, mais à la fois avec quand même une espèce de certitude que ça avait vertu à être publié et à être partagé. Ce que je trouve intéressant avec son journal à elle, enfin donc c'est une pratique qui n'est pas honnêtement purement du journal pour une raison d'hygiène intime, c'est vraiment un journal écrit par une femme de lettres qui veut être publiée un jour. Et elle a dit plus tard qu'en faisant ce journal, donc elle a commencé à tenir un journal à l'âge de, je sais pas, 27, 28 ans. Le premier volume, moi j'ai lu ça, j'avais son âge, je me suis dit merde, à 100 ans d'écart, on se pose les mêmes questions. Je ne suis pas juste une grosse merde du 21e siècle. Non, dans les années 20, elle se posait les mêmes questions que moi, alors que elle, c'est à Artaud qu'elle roulait des pelles et pas Jean-Michel Truc. Je vais l'appeler Jean-Michel. Et donc il y a quelque chose qui devient une œuvre littéraire. Une œuvre littérale légitime en soi, mais et où plus tard elle a dit que tout le temps qu'elle avait choisi de faire un journal, comment est-ce qu'elle a dit ça ? Elle voulait avoir un ami. J'ai fait ce journal pour avoir un ami et en passant ma vie à parler à cet ami, peut-être que j'ai gaspillé ma vie. Et je me demande à quel point, quand on s'habitue à avoir une pratique de raconter sa vie publiquement, de la transformer en permanence en anecdote, c'est-à-dire en fiction. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se mettre en place, de se dire « je fais tout pour la fiction, en fait ».
Bah moi, pour répondre à cette question, je dirais que ça dépend combien de temps on y passe et si on se met à faire des choses spécialement pour se dire qu'on va pouvoir les raconter après, comme on pourrait le faire, par exemple, enfin, je pense que ça nous est tous déjà arrivé de faire quelque chose en se disant je pourrais toujours le raconter à mes copines. Même
ça fera une bonne histoire.
Voilà. Quoi, bah voilà. Donc là, oui, ça peut devenir peut-être un peu malsain. Après, pour mon cas, moi, je passe pas assez de temps à raconter ma vie pour m'empêcher de faire des trucs. C'est d'autres trucs qui me font passer à côté de ma vie, comme la grosse glande, par exemple. Mais bon, ça, voilà, chacun son truc. Par contre, j'ai l'impression que, avec la pratique du journal, de toujours se mettre en scène soi-même, nanani, et de faire que ça, on peut tomber quand même dans quelque chose d'un peu étriqué et qui se mord la queue, pour le dire poliment. Du coup, je pense que c'est bien de pas faire que ça tout le temps, à moins d'avoir une vie vraiment passionnante, ce qui est le cas de peu de personnes. Donc,
voilà. Bah, l'intérêt aussi, c'est que c'est, même dans les choses qui ont pu t'inspirer, dans le blog BD, c'est quand même aussi de faire une histoire de trucs complètement à chier, d'un truc qui moisit dans ton frigo, pour faire référence à l'épisode de la raclette. Voilà.
Le fameux.
Tout le monde connaît cet épisode. Est-ce que vous avez tous lu des blogs BD dans votre vie ? Bah, des têtes hochemollement.
Il y a Boulet qui a fait pourrir sa raclette et voilà, on en parle encore 15 ans après. Donc
c'est quand même un épisode fondateur de... Oui, donc Boulet, blogueur BD. Enfin, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une remise à niveau ? Non, Boulet est un blogueur, un homme qui fait des petits Mickey sur l'Internet, qui est pas fondateur, mais je veux dire une figure importante du blog BD que tu as beaucoup lu toi-même d'ailleurs, que j'ai lu, qu'on a beaucoup lu, qui a fait un jour une note de blog sur du fromage à raclette ou une vieille raclette, enfin un truc qui avait moisi dans son frigo et sur lequel il projette toute une espèce de... le machin prend vie, devient une forme de vie autonome. Et voilà, c'est nul. Et c'est formidable et c'est ça qu'on veut lire, quoi. Et après, je sais plus où j'en étais avec tout ça. Voilà, c'est ça le problème. Où va-t-on, quoi ? Où va-t-on ?
Non, je pense que quand tu as la pratique, comme Salomé dit, d'écrire toujours un journal, de dessiner sur ta vie, tu es conscient de ta vie, petit à petit. Et tu trouves que tu es le protagoniste de ta vie et tu peux choisir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est une chose que tout le monde a les pouvoirs de faire, mais c'est pas que tout le monde est conscient de le faire. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Et c'est pas seulement faire des bandes dessinées, sinon de, oui, d'être conscient de qu'est-ce que c'est ça, d'habiter ici. Il y a beaucoup de choses qui m'aident beaucoup pour raconter ma vie ou de, pour changer mon narrative. Et un, peut-être, c'est la psychoanalyse. Et un autre, c'est le tarot. Et les bandes dessinées, les journaux intimes. Il y a beaucoup de choses pour te connaître. Et ça change tout le temps. Et c'était génial parce que tu peux raconter des histoires de terreur, des histoires de romantique ou les choses que tu veux avec ton propre histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton question, mais...
Non, mais tu as dit des choses très intéressantes et on s'en fout de la question puisque la question était bancale. Donc merci.
Il y a un tas de choses que j'estime qui sont des sujets importants et j'ai fait mes choix des sujets desquels je souhaite parler. Et d'un coup, quand je me mets à raconter, il y a tout un tas de choses inconscientes qui sortent également, que je ne me rends même pas compte, mais je les décris et je les rencontre également. Et surtout, je peux dire que quand je m'exprime dans une BD, j'ai à la fois mon dessin, comment je vais utiliser mon crayon, comment je vais accentuer les différentes figures, les exprimer et quel mot je vais choisir. Et ce qui rend les BD tellement intéressants et passionnants, c'est qu'il y a tellement de niveaux différents où on peut s'exprimer sur plusieurs registres. Et certains, j'ai fait des choix conscients, et d'autres, ça arrive comme ça.
Peut-être il y a quelque chose d'intéressant dans à la fois la façon dont tu te mets en scène dans ton œuvre, mais aussi, en fait, il y a quelque chose en parallèle de ça, qui est que tu fabriques des vêtements, c'est-à-dire que tu fabriques, tu couds, tu brodes, elle se fait des tenues, elle dessine sur ses propres vêtements, tu conçois des bijoux aussi. Et tu te mets en scène dans tes bandes dessinées avec ces vêtements que tu as inventés. Donc il y a vraiment un truc d'invention, de création totale d'un personnage où la frontière se brouille un petit peu entre la réalité et la fiction. En fait, tu construis un personnage et surtout, je trouve que tu montres quelqu'un avec toutes ces spécificités, ce corps que tu as, ces vêtements que tu as, et tu te montres tel que tu es, pour aussi avec une volonté de créer des bandes dessinées qui montrent une diversité, même de sexualité, de corps et de personnalité, qui avait peut-être pas, ou tu n'as peut-être pas toi-même eu d'exemple dans la bande dessinée quand tu lisais des BD. Enfin, je sais qu'il y a dans ton travail un souci aussi de création, de représentation et d'invention, en fait, pour diversifier les personnages existants.
Je crois que c'est un point que tu évoques là, de créer une identité. C'est par exemple ce que font certaines personnes quand ils utilisent les social media.
Et nous avons ja generell durch wie wir uns kleiden, wie wir unsere Frisur machen, wie wir.
Et on est tous en train de jouer en fonction de la manière dont on s'habille, on s'exprime, on gesticule, on utilise le langage à montrer une image de soi.
Wer wir sind. Und das geht halt, also das macht mir auch irgendwie Spaß. Also,
et il y a toute une série de photos de moi à Instagram où je m'amuse vraiment, où je suis à moitié nu avec des habits et je me montre.
Fashion Sachen bin. Und also würde ich halt nie machen so auf der Straße. Also ich fände es auch nicht schlimm.
Que je ferais jamais dans la rue?
Also nicht, weil ich ein Problem damit habe, sondern einfach, weil es mich nicht interessiert. Aber mich interessiert es halt.
Car ça m'intéresse de faire les choses liées au livre, liées au caractère, parce que ces caractères, une fois qu'ils sont habillés ou dénudés, ils peuvent faire plein de choses qui m'intéressent dans ce monde que je raconte.
Ich auf Fotos anhabe, bekommt das eine andere Bedeutung und Leute.
Et je trouve qu'à la suite, les gens réagissent et ils m'écrivent ou ils me décrivent d'une manière que moi je ne suis peut-être pas, mais c'est tout un jeu. Und et c'est ça qui est intéressant.
Interessant, auch generell. Und ich kann damit halt was ausdrücken, was zum Beispiel so.
Et il y a tout un tas de sujets ou de discours. Je ne vais pas peut-être utiliser les mots les plus propres, mais est-ce qu'on parle de sexualité? Est-ce qu'on parle d'exprimer quelque chose que dans la vie réelle j'aurais fait autrement? Je ne sais pas comment trop le dire, mais je montre une dimension, quelque chose. Et voilà, je communique quelque chose.
Zeigen würde oder und damit halt eine Figur erschaffen.
Et les personnages donc j'ai créé devient beaucoup plus politique et permet d'exprimer des choses que moi-même dans ma vie réelle ne pourrais pas le faire.
Ich als Einzelfigur Person wäre.
Est-ce que vous deux dans votre biographie vous avez eu le sentiment, tu disais tout à l'heure que les seules bandes dessinées autobiographiques ou autofictives que tu avais pu lire dans ta jeunesse, c'était quand même des trucs avec des sujets très sérieux. Enfin, je ne sais pas à quoi tu penses. Tu pensais peut-être à Marjane Satrapi ou tu pensais à Spiegelman
Voilà, Spiegelman, David B., etc. Donc, après, ce n'est pas vrai que c'est les seuls auxquels j'avais accès. Mais ma mère, elle avait un peu des sortes de fanzines, un peu de punk, avec des histoires de branlettes et tout. Donc, oui, c'était quand même plutôt les livres qui sortaient dans les années 2000. C'était des grandes histoires, machin. Enfin, c'était avant les blocs BD et j'avais un peu accès à ce qu'on me donnait aussi. Donc, je sais pas, j'avais pas lu les trucs de Julie Doucet, par exemple, tout ça.
Tu avais l'impression de reconnaître, enfin, trouver, toi, si on parle de la question des modèles, de la représentation, de se reconnaître dans des héros de fiction ou dans des personnages qui racontent leur existence. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient comme ça, des modèles, ou tu voyais pas,
je me reconnaissais dans le sens où c'était des êtres humains, il leur arrivait des trucs, et vu qu'ils le racontaient de l'intérieur, donc j'avais des émotions avec eux, quoi. Après, ça m'était surtout une grosse perspective de... Il y a des gens qui vivent des choses très dures et toi, ta vie, elle est vraiment pépère. Donc, il ne faut pas trop se plaindre. Donc, ça crée à la fois ce fossé immense où tu te dis, putain, c'est ça, toutes les vies qu'on peut vivre et qui peuvent prendre des formes super différentes et hyper difficiles par rapport à ce que moi, je vis. Et en même temps, c'est une façon d'avoir un petit Judas dans lequel on regarde et on a accès à la vie de ces gens et on peut comprendre aussi. Donc, en fait, lire de l'autobio faite par d'autres gens, c'est aussi une façon de sortir de soi-même, paradoxalement, et de s'intéresser aux autres.
Toi, tu te reconnaissais dans certaines bandes dessinées que tu lisais ou tu étais absente de l'univers de la fiction?
Non, je me souviens que quand j'ai vu les bandes dessinées de Julie Doucet et les Diary of New York, pour moi, c'était... Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai envie de faire la même chose. Et après.
Mais c'était tard en plus, c'est ça? Enfin, ouais. C'était pas dans ta jeunesse, c'était pas dans ton adolescence.
Non, c'était. J'étais grande.
J'étais vieille, tu avais la vingtaine.
Ouais, très vieille quand j'ai lu ça. Et après, j'ai seulement envie de trouver des femmes qui racontent sa vie. Et j'ai cherché David Rechtler, Aline Kominsky. J'aimais beaucoup la façon de dessiner. Parce que quand j'étais petit en Équateur, dans la Colombie, il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées. Et c'est seulement Calvin et Hobbes, que c'était pas mal du tout, mais c'était génial. Mais c'est pas... les choses que j'ai vues sont des super-héros et des corps très hégémoniques. Et les femmes sont très belles, mais j'ai jamais senti quelque chose proche de ça. Mais quand je suis arrivée ici, que j'ai trouvé beaucoup de femmes qui dessinent un peu, que je crois que c'était un langage aussi.
Un langage, oui.
Et c'est pas seulement le texte. La façon de dessiner m'a montré quelque chose de traumatique. Et c'était, pour moi, j'ai envie de lire plus de traumatique aussi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des bandes dessinées. C'est grâce à elle, parce que je me vois moi-même là-bas. Ouais.
Oui, on cherche des compagnons. Il y a un sentiment aussi, de même si on sort du registre du blog BD, mais je veux dire, le travail autobiographique, autofictif, avec sa sensibilité, son récit de misère absolue peut... un rôle hyper important de compagnon de route, Julia Wertz. Quoi de mieux que Julia Wertz, ou je sais pas, enfin, pour sortir de la BD, le journal de Kafka, quand vous êtes au fond du trou, la tête au fond du gourbi, bah, lisez le journal de Kafka ou de Julia Wertz qui va aussi mal, sinon plus mal que vous. Et la vie est plus supportable, quoi. Ouais.
Je sens que ce sont des gens qui t'ouvrent la porte et te disent « Fais, qu'est-ce que tu veux ? Fais, allez !» Ouais, te donne de la liberté.
Je ne sais pas si tu as envie de réagir à ça, parce qu'il n'y a toujours pas de questions, c'est ça le...
Wo du gerade gesagt hast von so Super-Hero-Geschichten und sowas.
Tu as parlé des super-héros, c'est là où je vais rebondir.
Und ich habe diese Geschichten geliebt auch.
Et moi, j'adorais ces histoires.
Und auch Fantasy generell, Herr der Ringe, what, so alle.
Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux et des histoires comme ça, j'ai beaucoup aimé aussi.
Und ja, ich hätte halt gerne so die queere Version von diesen Geschichten und das ist, glaube ich, schon ein Ansporn auch an mich selber.
Et surtout, ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai trouvé une correspondance entre ce qui se passe dans ce monde fantastique, science-fiction, et ce qui me touche moi profondément. Il y a des ponts à créer.
High fantasy, sci-fi zu mischen.
Oui.